La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans notre émission La parole des contes. Et pour cette émission, nous voici dans l'univers de la parole des gallinacés. Nous commencerons par une histoire plutôt en direction des enfants, et pas que. Avec les plus belles histoires du père Castor. Alors, voici la petite poule rousse. Près du bois, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une maison. C'est la maison de Poule Rousse. Dans la cuisine et dans la chambre, tout est propre et bien rangé. Poule Rousse est une bonne ménagère. Oui, ça date un peu, hein. C'est l'image comme ça de... Bon, enfin, donc, pas un grain de poussière sur les meubles, des fleurs dans les vases et aux fenêtres, de jolis rideaux bien repassés. C'est un plaisir d'aller chez elle. On n'avait pas encore trouvé les tissus qui ne se repassent pas. Son amie, la tourterelle, vient la voir tous les jours. Toc, toc, toc! Elle frappe doucement à la porte et les amis s'embrassent. Ce sont des... Pensez donc, elles ont beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Elles s'assoient l'une en face de l'autre. Elles boivent un tout petit verre de vin sucré, croquent des gâteaux secs. Elles chantent, jouent au domino ou bien elles travaillent en bavardant. La tourterelle tricote. Cotte, Poule Rousse aime mieux coudre ou raccommoder. Du reste, elle a toujours dans sa poche une aiguille tout enfilée, un dé et des ciseaux. Elle est toujours prête à rendre service aux uns aux autres en raccommodant un accro ici ou là. Aussi, tout le monde dit du bien d'elle. Et le renard qui dresse ses oreilles pointues à tous les vents entendit un jour... Oh, quelle bonne petite poule, cette poule rousse! Et comme elle est belle et grassouillette!
Toute grassouillette, se dit le renard. Oulalalala, grassouillette, grassouillette!
L'eau lui vient à la bouche et il court tout droit chez lui. Il entre en dansant et en chantant. Grassouillette, grassouillette, elle est toute grassouillette! Et que t'arrive-t-il donc, mon mari? Lui demande la renarde. Tu es fou! Tralalala, il y a une poule rousse près du bois, une poule comme il faut, et grâce à point, je vais l'attraper, et tout de suite. Vite, donne-moi un sac, prépare la marmite, fais bouillir de l'eau. Nous allons la faire cuire et la manger, cette poule rousse. Oh, quel renard tu es, quel amour de renard! S'écrie la renarde toute joyeuse, et elle lui tend le sac. Le renard file comme le vent, il voit la maison de Poule Rousse s'approche doucement. Du même moment, la porte s'ouvre et on entend... Au revoir, chère tourterelle, à demain, et lui répond... À demain, ma poule rousse. Au revoir. Et la tourterelle s'envole. Poule rousse sort de sa maison, va chercher du bois au bûcher. Alors, oup, Le renard saute dans la cuisine sans faire de bruit et se cache derrière la porte. Poulrousse prend du bois et rentre tranquillement dans sa maison. Le renard l'attrape, la fourre dans son sac si vite que Poulrousse n'a pas le temps d'ouvrir le bec.
je te tiens ma belle !»
Le renard noue le sac, le jette sur son épaule et s'en va en sifflotant. Poulrousse est toute étourdie. Elle étouffe, elle se débat dans le sac et lance un... Mais qui l'entendra? La tourterelle? Elle est là, tout près, sur une branche de pommier. Elle regarde et comprend. Le renard emporte Poulrousse pour la manger. Son cœur bat très fort, ses ailes tremblent. Malgré la peur qui tétanise, elle s'envole, pousse un petit cri, se pose à quelques pas du renard. Elle volette et sautille en traînant l'aile. Elle semble blessée.
Oh oh ! Une tourterelle blessée ! Quelle chance ! Attends, ma petite, il y a encore une place pour toi dans la marmite !
Le renard pose le sac par terre et court après la tourterelle. Il bondit pour l'attraper et hop, elle lui échappe et se pose quelques pas plus loin. Il saute, hop, il saute. Hop, et tout en sautillant, elle chante. Et Poulrousse, dans le noir de son sac, entend et comprend. Courage, Poulrousse, sauve-toi! Et Poulrousse, dans le sac, ne voit rien et comprend. Elle sort ses ciseaux de sa poche, crac, 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 elle coupe la toile, sort, voit au loin le renard qui poursuit la tourterelle qui s'échappe et l'éloigne toujours plus du sac. Elle pousse une grosse pierre dans le sac et recoue le sac, remet dans sa poche, aiguille, tout enfilé, des ciseaux et court, 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 vite, 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 vers sa maison. Le renard court aussi. Il est très loin, tout essoufflé.
« Oh non d'un rat, il faut que je l'attrape, cette sale bête !» Ah, là, cette fois, je le sens, ça y est.
Et rien. Et la tourterelle a vu. Elle a vu la Poulrousse entrer dans sa maison. Elle n'a plus de raison de jouer à ce deux jeux dangereux. Et elle s'envole haut dans le ciel, très haut. Le renard reste bouche bée. Furieux, revient vers le sac qu'il remet sur son épaule en grognant. Ben au moins j'en ai une. Il rentre chez lui bien fatigué. Le couvert est mis, l'eau bout dans la marmite. L'as-tu attrapé, mon chéri ? Demande la renarde en se jetant à son cou.
Si, je l'ai attrapé. Ah, tiens, vois comme elle est lourde.
La renarde soupèse le sac. Quel déjeuner nous allons faire ! Ils s'approchent tous les deux de la marmite, ouvrent le sac et laissent glisser ce qu'ils croient être la poule au-dessus de l'eau qui bout, mais c'est une pierre qui tombe et l'eau bouillante jaillit sur eux et les brûle si fort qu'ils se sauvent en hurlant dans les bois. Ils ne sont plus jamais revenus. Et depuis ce jour, Poulrousse et la tourterelle ne se quittent plus. Elles vivent ensemble dans la petite maison de Poulrousse et où elles sont très heureuses. Laissons cette Poulrousse et cette tourterelle vivre ensemble en bonne intelligence et allons rendre visite à Moitié de Coq. Chères auditrices et chers auditeurs, je ne sais pas si vous allez réussir à faire mieux que moi pour vous imaginer une moitié de coq. Donc sur une seule patte, avec une seule aile et vu la suite avec un demi derrière. Mais voilà le conte dans les contes populaires du Languedoc où nous trouvons justement cette histoire. Un jour, moitié de coq se mit en chemin pour aller voir le petit roi qui lui devait de l'argent. Chemin faisant, il trouva le loup qui lui dit « Hé, où vas-tu, moitié de coq, où vas-tu ? Hé, loup, je vais chez le petit roi qui me doit 100 écus. »« Oh, moitié de coq, emmène-moi avec toi. » »« Oh non, loup, tu pourras pas marcher. » »« Oh oui, moitié de coq, je marcherai mieux que toi. » »« Bon, alors loup, viens. » Et quand ils furent un peu plus loin, le loup dit « Oh, moitié de coq, je suis là. Hey, »« Hé, loup, que t'avais-je dit, maladroit ? Allez, tiens, fourre-toi dans mon derrière, je te porterai. » Et quand il eut un peu marché, le moitié de coq trouva le renard. Et celui-ci lui demanda « Hé, où vas-tu, moitié de coq ? Où vas-tu ? » ?»« Renard, je vais chez le petit roi qui me doit 100 écus. » »« Moitié de coq, « emmène-moi avec toi. »« Ben non, renard, tu pourras pas marcher. »« Ah, moitié de coq, je marcherai mieux que toi. » »« Dans ce cas-là, renard, viens. » Et quand ils furent un peu plus loin, le renard lui dit « Oh, moitié de coq, je suis là. »« Hé, renard, que t'avais-je dit ? Allez, tiens, fourre-toi dans mon derrière, je te porterai. » Quand il eut encore un peu marché, moitié de coq trouva la rivière. Celle-ci faisait zoom, 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 en courant sur les pierres et les cailloux. Et quand elle vit moitié de coq, elle s'arrêta et lui cria « moitié de coq, où vas-tu ? Où vas-tu ? » « Hé, la rivière, je vais chez le petit roi qui me doit 100 écus. » « Oh, moitié de coq, emmène-moi avec toi. » « Hé, la rivière, tu ne pourras pas marcher. » « Ah, moitié de coq, je marcherai mieux que toi. » « Bon, dans ces conditions, viens avec moi, rivière. » Et ils marchèrent côte à côte, et au bout d'un certain temps, la rivière dit « Oh, moitié de coq, je suis lasse. Hé, rivière, que t'avais-je dit, maladroite ? Allez, tiens, fourre-toi dans mon derrière, je te porterai. » Et en arrivant chez le petit roi, le petit roi reçut moitié de coq comme il se doit. Il lui donna à manger tant qu'il voulut. Mais à aucun moment il ne lui parla de son argent. Ils restèrent ainsi plusieurs jours, et toutes les fois que moitié de coq parlait de ce qui lui était dû, le petit roi lui répondait « Mange et bois, nous verrons ça plus tard. » Et en attendant, il complotait avec sa femme pour tuer le pauvre moitié de coq. Un soir, ils décidèrent de le faire coucher à l'étable. Et les moutons lui donnaient des coups de tête. Et comme il était déjà bien en colère de ce qu'on ne voulait pas le payer, il dit au loup « Allez, loup, sors de mon dernier et tue-moi tout ce troupeau de moutons. » Le loup sortit et saigna tout. Les béliers, les brebis, les agneaux, tout. Quand le lendemain matin, le petit roi vit son troupeau tout détruit, il pensa tomber à la renverse. Cependant, il n'osa rien dire, parce qu'il ne savait pas exactement comment ça s'était passé. Il pensa bien que moitié de coq y était pour quelque chose. Lorsqu'arriva le soir, le petit roi fit coucher moitié de coq avec les poules. Et celles-ci avaient ordre de ne pas le laisser tranquille. Elles l'ennuyèrent tant que moitié de coq dit au renard « Et renard, renard, sors de mon derrière et tue-moi toutes ces poules qui m'agacent !» Oh, le renard ne se fit pas prier. Il sortit du derrière de moitié de coq et sauta sur tout ce qui bouge et saigna tout, et en laissant indemne moitié de coq, comme il se doit. Le lendemain matin, la femme du petit roi alla au poulailler pour chercher des œufs, et quand elle vit toutes ses poules mortes, elle eut une telle colère que si elle avait osé, elle aurait étranglé moitié de coq. Elle alla trouver son mari et elle lui dit « Ah, si tu ne me débarrasses pas de cette bête, il ne te restera bientôt plus rien !»«
Sois tranquille, ma chérie, lui dit celui-ci. Ce soir, nous le ferons coucher dans le grand chaudron et nous le ferons cuire. »
Ils firent comme ils avaient dit. Mais quand moitié de coq sentit la chaleur du chaudron, il dit à la rivière. Hé, rivière, rivière, sors de mon derrière, et tue-moi tout ce feu qui me brûle. Oh, la rivière ne se fit pas prier. Elle s'ennuyait toute seule dans le noir. Et puis elle ne courait plus. Oh, elle sortit vite, vite en faisant zoom, 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 zoom. Et elle éteignit le feu aussitôt et noya le petit roi avec sa femme. Et moitié de coq, le loup, le renard et la rivière se régalèrent de tout ce qu'il y avait dans la maison. Et chères auditrices et chers auditeurs, il y avait tant à manger dans la maison du petit roi que nous aurions eu notre part, nous aussi. Mais laissons-les à se régaler et poursuivons notre voyage dans une histoire similaire. Il était une fois une vieille femme, pauvre. Elle avait pour compagnon un petit coq noir. Et lui, gratte par-ci, gratte par-là, trouve une graine, et oh ! Un écu d'or qui brillait au soleil. Et juste à ce moment-là, le roi passe dans sa voiture, lui aussi attiré par le brillant de l'écu, fit arrêter la voiture, descendit, se précipita sur le petit coq qui tenait dans son bec le bel écu, le lui arracha sans forme de procès, remonta dans la voiture et se dirigea dans son château. Oh, bah le petit coq noir n'était pas content. Et il marche, 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 et va au château. Trou-tou-tou, trou-tou-tou. Il regarde par toutes les fenêtres jusqu'à ce qu'il vit le gros roi assis. Il se posa sur le rebord de la fenêtre et commença sa chanson. « Roi pansu, roi ventru, rends-moi mon bel écu !» Oh, le roi n'était pas content. Il fit appeler ses gardes. « Mettez-moi ce petit malotru au fond du puits !» Les soldats prirent le petit coq qui se laissa faire et le jetèrent au fond du puits. Et au fond du puits, le petit coq se mit à chanter sa chanson. Petit jabot, joli jabot, avale, avale toute cette eau. Églou, 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 églou. Et toute l'eau du puits est rentrée dans son jabot magique. Avec difficulté, il s'est envolé car il était bien lourd avec toute cette eau. Il s'est envolé au-dessus du puits, il a voleté par-ci, par-là, jusqu'à trouver derrière quelle fenêtre se cachait le roi. Et sur le rebord de la fenêtre, il a chanté sa chanson. « Ô roi pansu, roi ventru, rends-moi mon bel écu !» Oh, le roi n'était pas content du tout, il appelle encore ses gardes. « Eh bon, jetez-moi ce malotru au fond du four !» Et les gardes attrapèrent le petit coq noir qui se laissa faire et ils le jetèrent dans le four où il y avait un feu d'enfer. Et le petit coq chanta sa chanson. « Joli jabot, petit jabot, crache, crache toute cette eau. Petit jabot, joli jabot, crache, crache toute cette eau. » Et toute l'eau qu'il y avait dans son jabot, glou, 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 éteint le feu. Et le petit coq noir sortit du four sans incident et chercha derrière quelle fenêtre se cachait le roi. Et sur le rebord de la fenêtre, il a chanté sa chanson. « Roi pansu, roi ventru, rends-moi mon bel écu !» Oh, le roi était en colère. « Ses gardes sont des incapables. Je vais m'en occuper moi-même. » Non, pas tout de suite. Oui, les gardes,
aller jeter ce malotru au fond de la ruche et que les abeilles le piquent et l'exécutent. » Les gardes prirent le petit coq noir qui se laissa faire et entra dans la ruche. Et lorsqu'il fut dans la ruche, il chanta sa chanson. « Joli jabot aux mille merveilles, avale, avale toutes les abeilles. » Et toutes les abeilles rentrèrent dans son jabot qui devint gros, 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 gros. Et plus une abeille était dans la ruche. Le petit coq sortit de la ruche sans inquiétude et chercha. Le roi, derrière quelle fenêtre se cachait-il? Ha ha! Et sur le rebord de la fenêtre, il a chanté sa chanson. Roi pansu, roi ventru, rends-moi mon bel écu. Et c'est là que le roi, en colère, dit que ses gardes ne savent rien faire. Je m'occuperai de cette affaire moi-même. Il prit le petit coq qui se laissa faire, le mit sur son énorme fauteuil et un énorme coussin par-dessus pour y déposer ses fesses royales qui écrasèrent un peu le petit coq qui chanta sa chanson. Jabot aux mille merveilles, crache, crache toutes ces abeilles. Et au fur et à mesure, les abeilles piquaient le roi sur le bras, sur la cuisse, au front, à la joue, tant et tant, et puis aux fesses aussi. Il se mit à hurler, garde, garde, faites entrer ce petit coq noir dans la salle au trésor et laissez-lui prendre ce qu'il veut. Et c'est ainsi que le petit coq noir entra dans la salle au trésor et chanta sa chanson. Jabot aux mille bords, avale, avale tous ces trésors. Et il avala, il avala, il n'y avait plus rien dans la salle au trésor du roi. Et c'est ainsi que le petit coq noir s'est dandiné pour rentrer jusque dans la maison de la vieille. Et il a sauté sur la table et là, il a chanté sa chanson. Jabot aux mille bords, crache, crache tous ses trésors. Et devant les yeux émerveillés de la vieille, tous les trésors se sont étalés sur la table. Et voilà comment cette vieille femme, pauvre, finit sa vie dans l'opulence, sans souci du lendemain, et toujours en prenant soin de son joli petit coq noir.
Un petit coq chantait, plastronnait, claironnait de son cocorico, réveillant les échos. La basse cour suivait notre chante grelait, picorant tout le jour les jardins et les cours, car il avait du flair et toujours il trouvait ce qu'il fallait à ses poulets. C'est un coq adorable, il peut bien s'en vanter en cœur.
Cocorico, cocorico.
Nul coq n'est plus aimable et ne sait mieux chanter avec moi.
Cocorico, cocorico.
Chères auditrices et chers auditeurs, laissons Bourville et les enfants dans leur chant amusant, amusé. Et continuons le voyage dans une étrange histoire où la justice sera rétablie dans le trésor des contes d'Henri Pourrat. Il y avait une fois trois pèlerins de Dieu qui allaient à Saint-Jacques. Par une ville, ils ont passé. Sur la place, se sont arrêtés. Le plus vieux des trois a dit « N'allons-nous pas loger dans cette hôtellerie ?» Le plus jeune a répondu « Continuons notre route. Droit, en remontant ces côtes, nous souperons. Droit, en descendant dans les plaines, sous la belle étoile de Dieu, nous coucherons. » Mais le plus vieux menait la troupe. Pour le souper et la coucher, il a voulu aller à l'hôtellerie de la Grand Place. Il y avait là une servante qui était fille perdue. En servant le souper, elle a regardé le plus jeune des trois. Et elle lui riait. Les menant à la chambre, le tirant par la manche, elle lui a parlé. Mais ce plus jeune était de grande mœurs. Ni pour argent, ni pour victuailles,
il n'eût fait le mal avec elle. La fille, enragée de dépit, a pris la tasse d'argent de l'hôte, son tas de vin. Enfin, c'est pas un tas de vin, quoi. C'est un tas de vin. C'est une tasse qui sert à goûter le vin. Et sur la minuit, elle l'a caché dans le sac du jeune, sous sa chemise blanche. Et au matin, sitôt les pèlerins partis, elle a crié que la tasse n'était plus là, que quelqu'un l'avait prise. Ah, il faut que ce soit le plus jeune. Il a la mine d'un sournois. Ah, je mettrai la main au feu que c'est lui le larron. On a couru après les pèlerins. Au bout de la grande place, on les a rattrapés. Devant le feu de la cuisine, on les a tous fouillés. Dans les hardes du plus vieux, n'ont rien trouvé de conséquence, et dans celles du plus jeune, ils ont trouvé la tasse. Le juge du lieu était venu avec tous ses sergents, sans rien vouloir savoir, sans rien vouloir entendre. À la potence du milieu de la place, il a envoyé pendre le plus jeune des trois. Étonnés, comme si le tonnerre venait de s'abattre entre leurs pieds, les deux autres pèlerins sont retournés en leur pays. Aux parents de leurs compagnons sont allés annoncer le jugement et la mort. Dans le moment, le père, la mère ont pris le chemin de Saint-Jacques. Longtemps, longtemps ont cheminé. Sitôt rendus en cette ville où leur enfant avait été pendu, ils se sont jetés aux genoux du juge. Le père l'a supplié, la mère l'a injurié. Il faut qu'il y ait quelque trahison. Notre enfant, notre fils, n'a pas pu voler la tasse. Juge, faux juge, revenez sur le jugement. Promptement, faites-le dépendre. Oh, voilà 3 mois qu'il est pendu. Il est plus sec et mort que ce coq qui est mis à rôtir. Je ne dirais de le dépendre que si ce coq-là ne chante. Hein? Le juge montrait le coq qui rôtissait dans l'âtre. À peine avait-il dit cela que le coq a sauté sur le plancher de la salle, il a battu 3 fois de l'aile et à la 4e fois, il a chanté. Du coup, on a couru à la potence et à la potence, on a trouvé le pèlerin vivant. On a dépendu le pèlerin. Et du coup, on a même pendu la servante. Alors, je sens, chères auditrices et chers auditeurs, que vous n'y croyez pas vraiment. Alors, je voudrais vous rappeler que, une fois, un enfant demandait à un conteur si tout ça, c'était vrai, c'était vraiment vrai. Et le conteur lui a répondu, « Les histoires ne sont pas faites pour être crues, mais pour être... » manger. Alors, bon appétit, chères auditrices et chers auditeurs, et en route pour une petite dernière histoire. Avant de se quitter, elle est trouvée dans le conte des sages du ghetto, où un prince se prenait pour un coq. Et j'ai trouvé la même histoire où le prince se prenait pour un dindon, et nous restons bien ici, chez les gallinacés. Il était une fois dans un très ancien royaume, un jeune prince, beau et intelligent. Et un jour, il se mit dans la tête qu'il était un coq. Au début, le roi son père crut qu'il ne s'agissait que d'une crise passagère. Mais quand le prince se mit à ôter tous ses vêtements, à battre des bras, à faire cocorico comme un coq, le roi commença à prendre la chose au sérieux. Entre-temps, le jeune prince avait élu résidence sous la table de la salle à manger et acceptait uniquement de manger les grains de maïs que l'on faisait tomber sur le tapis royal. Le roi était très triste de voir son fils en pareil état. Il fit venir ses meilleurs médecins, ses magiciens, ses faiseurs de miracles. Tous essayèrent de raisonner le jeune prince. Puis ils essayèrent leur médecine et la magie. Et le jeune homme demeurait convaincu qu'il était un coq. Un par un, les médecins, les magiciens, les faiseurs de miracles s'en allèrent. Chaque fois, le coq lançait son cocorico. Le roi tomba dans un état dépressif très profond, convaincu que personne, absolument personne, ne pourrait guérir son fils de son étrange maladie. Il ordonna à ses serviteurs d'interdire l'accès du palais à tous les guérisseurs ou chercheurs de fortune. Il en avait assez. Et pourtant, un jour, un sage inconnu frappa fort aux portes du palais. Le serviteur le plus fidèle du roi entr'ouvrit le portail et aperçut un vieillard aux yeux perçants qui le dévisageait. « J'ai entendu dire que le fils du roi se prenait pour un coq. Je suis venu le convaincre de son erreur. » Le serviteur referma violemment le portail en lui disant à travers le portail « Tant d'autres hommes s'y sont essayés et tous sont échoués. Va-t'en, vieillard !» Le lendemain, le serviteur entendit à nouveau frapper fort à la porte. Encore une fois, il entr'ouvrit le portail. « J'ai un message pour le roi, » dit le sage inconnu. « De quoi s'agit-il ? » demanda le serviteur. « Donne-moi ton message et va-t'en. Tu diras au roi exactement ceci. Pour sortir quelqu'un de la boue, il faut parfois qu'un ami s'y mette avec lui. » Le serviteur n'avait pas la moindre idée de ce que signifiaient ces mots. Il fit cependant attendre le sage dehors, devant la porte du palais, et alla porter son message au roi. Affaissé sur son trône, ce dernier écouta le message énigmatique. « Pour retirer quelqu'un de la boue, il faut qu'un ami s'y mette avec lui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Et plus il y pensait, et plus ses paroles prenaient un sens. Le roi finit par se redresser et dit « Fais entrer cet homme, je vais lui donner sa chance !» À la stupéfaction générale, le sage commença par ôter ses propres vêtements. Le roi hocha la tête. Il y avait désormais deux hommes entièrement nus sous la table de la salle à manger royale, tous deux lançant leurs coricots comme des coqs. Bientôt, le jeune prince dit au vieux sage « Qui es-tu ? Et que fais-tu là ?»«
Ne vois-tu donc pas, répondit le sage, que je suis un coq exactement comme toi ?»
Le prince était heureux de s'être trouvé un ami. Et tout le palais résonna bientôt du bruit des battements de leurs bras et de leurs cocoricots qui se répondaient l'un à l'autre. Et le lendemain, le sage sortit de sous la table, redressa son dos et s'étira longuement.
« Et qu'est-ce que tu fais ?» demanda le jeune prince, légèrement inquiet. « Mais ne t'inquiète donc pas, » répondit le sage. « Ce n'est pas parce que tu es un coq que tu es obligé de vivre sous la table. »
Le prince était en admiration devant l'intelligence de son ami et il fit comme lui. En effet, c'était vrai, un coq pouvait se mettre debout, s'étirer et être toujours un coq. Le lendemain, le sage enfila sa chemise et son pantalon.
« Mais as-tu perdu la tête ?» demanda le prince tout étonné.
« Oh, j'avais un peu froid !» dit le sage.
« D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es un coq que tu n'as pas le droit de mettre des habits d'homme. Tu restes toujours coq. »
Intrigué, le jeune prince enfila des habits. Puis, le sage demanda qu'un repas leur soit servi sur les plateaux dorés du roi. Il se mit à table avec le prince et sans même s'en rendre compte, le jeune prince commença à manger avec appétit. Pendant ce temps, le sage lui parlait avec vivacité des affaires du royaume.
Soudain, le prince se redressa sur ses pieds et s'écria « Ne vois-tu donc pas que nous sommes des coqs ? Comment est-il possible que nous soyons attablés en train de manger et de discuter comme des hommes ?»
Mais maintenant, je peux te dire un grand secret, dit le sage. On peut s'habiller en homme, manger comme un homme, parler comme un homme et être toujours un coq.
Vraiment ?
Et à partir de ce jour-là, il se comporta exactement comme un homme. Quelques années plus tard, il montait sur le trône. Sous son règne, le pays connut gloire et prospérité. Et de temps à autre, lui venait l'idée qu'il était en réalité toujours un coq. Et quand il se retrouvait seul, le roi lançait un cocorico par-ci, un cocorico par-là, pour être tout à fait sûr qu'il était bel et bien un coq. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, il est temps de nous quitter. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.